Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous. Alors, c'est notre dernière de la saison de l'année, en fait, devrais-je dire, pas de notre saison de radio, mais de la saison d'automne, disons ça comme ça, de Société, la dernière avant Noël, qu'on vous souhaite chaleureux, plein de tendresse, d'amour et de proximité électronique, on va dire, proximité du cœur, ou en tout cas, il faut éviter d'être près les uns des autres physiquement pour le moment. C'est pas facile, mais on va en venir à bout. Comme dit le ministre Dubé, nous sommes dans le dernier droit du marathon, là où c'est souvent le plus difficile, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Voyons ça comme ça. Alors, évidemment, dans cette émission de fin d'année, nous allons revenir sur les événements qui, à nos yeux en tout cas, ont marqué l'année, les phénomènes sociaux, les nouvelles politiques, les gens qui se sont fait remarquer, les bons coups, les mauvais coups. Nous aurons le regard sociologique de Joseph-Yvon Thériault, professeur de l'Université d'Ottawa, sociologue, auteur, essayiste, un peu plus tard dans l'émission. Nicolas Vidal, en direct de Paris, nous parlera de l'année française et européenne. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, nos deux commentateurs de l'actualité, le duo des Fred, Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, avocat, il reste. Bonjour Frédéric Bérard.
Bonjour Nick Payne.
Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique, ex-candidat du Parti québécois dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Et participant au dernier congrès du Bloc POT, dois-je le rappeler?
Je le présidais.
Vous le présidiez, c'est pas
voilà.
C'est pas la moindre des choses. Un instant avant d'aller sur la revue de l'année, puisque nous avons Bérard avec nous, on ne peut pas ne pas parler ce midi de ces deux nouvelles au rythme desquelles le tout Québec médiatique a vécu ces derniers jours, mais même la population québécoise a beaucoup parlé de ces sujets-là. Les deux acquittements dans des causes d'agression à caractère sexuel, là, Gilbert Rozon d'une part et Éric Salvaille de l'autre. Dans les deux cas, nous avons un juge qui dit essentiellement qu'il ne croit pas nécessairement ce que dit l'accusé, mais il subsiste un doute raisonnable tout de même. Frédéric Bérard, on a l'impression dans ces affaires-là qu'il y a un clivage qui s'installe entre la perception, l'humeur populaire qui dit que pas seulement chez les féministes, là, mais même, ou en tout cas les militants, ceux qui luttent là, pour un meilleur traitement des victimes d'agressions sexuelles aussi, mais même chez la population plus large, de ce système de justice défaillant qui fait la part belle aux agresseurs. Et puis de l'autre côté, le monde judiciaire, le monde les avocats, les juges, les experts de ce domaine qui disent « Oui, mais attention, la présomption d'innocence est au fondement même de notre système, sans quoi nous ne sommes plus en démocratie. N'importe qui peut être accusé et trouvé coupable de n'importe quoi. » Alors, au fond, même s'ils sont décevants, ces deux jugements-là sont un peu, d'une certaine façon, la preuve de ce qu'il y a de bien dans notre système. Est-ce que ce clivage-là est réconciliable?
Il y a trois aspects, je dirais, Nick. Premièrement, vous le dites vous-même, ces jugements-là sont décevants, mais décevants parce qu'on partait de la prémisse qu'ils étaient coupables. Mais est-ce que, et je ne veux pas défendre précisément ni Rozon ni Salvaille, mais est-ce que vous étiez au courant de ce qui s'est passé réellement? Est-ce que vous avez assisté au procès? Est-ce que vous avez vu les témoignages? Avez-vous eu accès à la preuve?
Oui, j'étais encore moins dans la chambre ou dans la pièce de Radio-Canada lorsque les événements allégués se sont produits, effectivement.
Voilà. Alors, donc, et voyez, ça, c'est ce qui m'embête un peu, pour pas dire m'emmerde dans ces affaires-là, c'est que ça devient un référendum. C'est comme un référendum ou encore un match d'hockey. Ben moi, je prends pour l'accusé, moi, je prends pour tel autre. Et dans ce cas-ci, tout le monde prenait pour les accusés, puis on peut comprendre, parce que Salvaire et Rozon ont vraiment de sales réputations. Mais entre avoir une sale réputation qui est, de ce que je comprends, méritée de toute manière-là, ces gens-là sont peut-être des merdes au sens faible ou au sens fort du terme, mais être une merde devant un tribunal, c'est pas une preuve en soi. Est-ce que dans ce cas précis, il y a eu agression? Oui ou non? Si la réponse, c'est non du fait qu'il y a un doute raisonnable, on passe à un autre appel. Si c'est oui, on s'en va en taule, puis on passe à d'autres choses. Donc, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire qui est embêtante, et là, je nuance un peu le premier volet, c'est que les crimes d'agression sexuelle sont, par définition, un peu, comment je dirais, singuliers, dans le sens où tout est fondé sur le consentement, essentiellement, donc un volet de subjectivité qui est assez fort, et il y a un problème de preuve aussi, évidemment, dans le sens où c'est pas comme voler, je sais pas moi, un paquet de gomme-ballon au couche-tard devant la caméra vidéo du dépanneur en question.
Ben, c'est toujours une parole contre l'autre, voilà, sur un événement qui s'est produit dans l'intimité, voilà, où il n'y a pas de témoin.
Bon. Et on s'entend bien que ce sont des trucs très sensibles, très délicats, puis je témoigne ici, là, évidemment, toute la sympathie aux victimes de manière générale. Là où le bas blesse, donc, c'est qu'on ne peut pas traiter ces crimes-là de la même manière que les autres crimes. Et là, il va falloir se mettre à réfléchir sérieusement. Puis moi, vous vous souviendrez, Nick, on s'est parlé cet automne, je pense même que c'est notre première émission, sur ce qui s'était passé cet été, les dénonciations sur Instagram et tout. Et je me rappelle avoir sauté un mini-carb en disant que je trouvais épouvantable que David Lametti, qui est ministre de la Justice au fédéral, et Jolin Barrette et François Legault encourageaient les victimes à les dénoncer sur Instagram. Mais c'est parce que, bande de bougres, s'ils le font, c'est justement parce que le système est considéré comme étant inapte en soi.
Alors, l'est-il? Est-ce qu'il est inapte? Est-ce qu'on peut changer des choses? Là, vous avez... Mais allez-y, voilà. Je vous laisse aller. Je vais passer à Frédéric Lapointe après.
Oui, bien, en fait, rapidement, oui, on peut changer des choses. Il y a un rapport qui a été émis cette semaine. Il va falloir se sortir les doigts du nez et corriger les institutions plutôt que d'encourager les gens vers des dénonciations semblables sur les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le tribunal spécialisé, on le fait pour la chambre de la famille, on le fait pour une chambre de la faillite. Pourquoi on le fait pas pour les crimes à saveur sexuelle? C'est la même chose. Ça existe d'ailleurs ça en Afrique du Sud. Avoir un avocat pour la victime du début jusqu'à la fin, notamment lorsqu'elle fait sa déposition, histoire de ne pas s'empêtrer dans certains trucs.
Parce que les victimes sont toujours, ou les victimes alléguées, disons ça comme ça, sont toujours surprises du degré d'attachement à leur témoignage initial, hein, pendant tout le procès.
Après, t'es coincé avec ça. Donc, tu veux éviter les contradictions. Un avocat pourrait lui dire, n'allez pas devant les médias, madame, n'allez pas faire comme Alice Paquette à l'époque, qui s'était contredit à quelques reprises, on s'en souvient, dans les premiers jours. J'ai eu des points de suture. Ah non, j'en ai pas eu et tout, mais évidemment...
Alors, cette jeune femme qui avait accusé le député libéral Jerry Sklavounos de l'avoir agressée, depuis, il y a eu un non-lieu ou un acquittement et...
C'est pire que ça.
Il n'y a même pas eu de poursuite. C'est ça.
Parce que le DPCP a dit qu'il n'y a jamais eu d'acte criminel. Et le dernier exemple, et j'arrête par la suite, c'est Yann Gomeshi, on s'en souvient, où les victimes laissées à elles-mêmes s'était entendu entre elles, et ça a été mis en preuve par la suite. La couronne, évidemment, n'était pas au courant, donc elle l'a su en plein process, qui a fait foirer la patente, plus des courriels de consentement, et ainsi de suite.
Alors, vous êtes en train de nous dire que dans ces deux cas-là, les victimes alléguées de M. Gomeshi et Alice Paquet, ce sont des gens qui se sont un peu tirés dans le pied par pour avoir été mal conseillés, mal encadrés, c'est ça?
Je le crois, puis j'ai pas de raison de ne pas croire leur version, quoique j'ai évidemment pas tous les faits en main, puis je ne suis pas juge de toute manière, mais reste que je pense que oui, ce sont deux exemples assez forts, assez patents, de l'absence de conseils appropriés initialement, parce que la couronne n'est pas l'avocat des victimes, la couronne représente l'État, tout simplement. La couronne est débordée, la couronne a un million de choses à faire, ce qui est un problème aussi, un manque de ressources, ce qui fait qu'on ne peut pas encadrer la victime de A jusqu'à Z. On prend ce qui est envoyé, ce que la police nous transmet à partir d'une déposition qui a été faite. Est-ce que les policiers, d'ailleurs, sont suffisamment bien formés? Moi, je vous confirme que non, pour avoir accompagné quelques victimes ici et là. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a des changements qui doivent être faits, opérés, qui peuvent être faits de manière très simple, sans même affecter la présomption d'innocence.
Alors, bien sûr, ça fait partie des 190 recommandations de ce comité-là, transpartisan de l'Assemblée nationale. Frédéric Lapointe, je me tourne vers vous pour parler un instant du côté politique et social de la chose. N'y a-t-il pas, malgré ce que dit Frédéric Bérard, une sorte de dialogue de sourds en ce moment entre ceux qui veulent changer le système et ceux qui proposent des réformes comme ce que vient de proposer, entre autres éléments, là, Frédéric Bérard? Dans la mesure où ce qu'on attend, on a l'impression que ce qu'on attend plus largement, au fond, c'est une réelle remise en question de la présomption d'innocence. Enfin, quand on lit évidemment, je ne citerai pas Martine Delvaux et des gens comme ça, parce que là, on est vraiment dans les extrêmes, mais des personnes, somme toute plus modérées, qui appellent à la réforme, ce qu'on propose en ce moment, ça ne changera pas le fond des choses, ça n'empêcherait pas un autre Gilbert Rozon d'être acquitté de nouveau parce que ben c'est sa parole contre celle de l'autre personne et ben ça ne, le doute raisonnable ne peut pas être évacué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment répondre aux attentes des personnes qui demandent un système où on sera plus satisfait des résultats?
Ben, en effet, on peut apporter des aménagements qui améliorent les choses, qui améliorent le vécu de la victime dans le système de justice. Je pense que tout cela est pertinent, mais ça ne change pas la donne fondamentale qui est la suivante. On a un système de justice qui va laisser aller 1 million de coupables avant de condamner un innocent. Et c'est vrai en matière de meurtre, c'est vrai en matière de fraude, et c'est vrai en matière de crimes sexuels. On ne va pas, dans le système actuel, prendre une chance sur 10 000 de condamner un innocent pour être sûr d'attraper 9999 coupables. Et cette valeur-là du système de justice, la présomption d'innocence, un degré de sophistication procédurale, ma foi, assez avancé, mais tout cela, c'est pour éviter l'erreur judiciaire dans un seul sens, et qui est celui d'éviter de condamner un innocent. Il y a des sujets sur lesquels c'est forcément plus sensible. Lorsqu'on a des survivants ou survivantes de crimes, de violences, comme des violences sexuelles, ben c'est plus sensible, non seulement pour ces personnes-là, mais pour toute la population. Mais la donnée fondamentale reste la même. On va innocenter 9999 coupables avant de condamner un innocent.
Alors, Frédéric Bérard, est-ce qu'on peut sortir de cette impasse? Est-ce qu'on... Alors là, évidemment, nous sommes trois hommes blancs dans la, je sais pas, la quarantaine, frôlant dangereusement la cinquantaine. Et on va se faire dire... On va se faire dire par les... Je parlais de Martine Delvaux tout à l'heure, mais je lisais Manal Drissi, la jeune humoriste, et d'autres qui disent, ou même Louis T, qui disent, à partir du moment où vous rappelez l'importance des fondements de notre système de justice, vous êtes au fond quelqu'un qui se réjouit de l'acquittement de ces pourritures, bon, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut vraiment... améliorer le système à tel point qu'on sortirait de ce langage-là?
Ben moi, ces commentaires-là des trois personnes que vous venez de soulever, je vais passer outre.
Oui, ben, enfin, je prenais des personnes représentatives, mais vous comprenez qu'il y a quand même des milliers de personnes qui pensent comme ça.
Mais ces personnes ont quand même une responsabilité parce qu'elles ont des micros, là. Mm-hmm. Et je vais laisser parler mon silence par rapport à cette bêtise qui me semble assez stratosphérique. Et je dirais simplement ceci. Si vous voulez vivre dans un État où la présomption d'innocence n'existe plus, ben moi, ça m'intéresse plus. Hein, vraiment, on va être honnête. Pour le reste...
Alors, vous déménagez comme avec M. Trump sur une île déserte.
Je vais déménager au soleil, moi, parce que comme disait Aznavour, hein, la misère, et dans ce cas-ci, la misère intellectuelle est beaucoup plus supportable au soleil. Pour le reste, il ne faudrait pas oublier que ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que la présomption... Dans le sens, oui, c'est un concept qui est constitutionnalisé, oui, qui est d'une importance fondamentale, ce qui n'empêche pas qu'il pourrait y avoir des aménagements là-dessus aussi. Par exemple, on pourrait empêcher les questions de style « Quelle blouse vous portiez ce soir-là, Madame Chose, il y a 40 ans? »
Ah bon? Mais est-ce que c'est pas réglé? J'avais compris qu'on ne pouvait plus aller là. C'est pas vrai?
Ils ont même essayé sur la blouse. Moi, je me souviens pas où j'ai mis mes clés, là. Ça fait une minute. Alors, qu'est-ce que j'ai mis il y a 40 ans? Allez savoir. Le reste, ah, ben, Madame Chose, elle avait la réputation d'être une courailleuse. La juge Mélanie Hébert les a mis en garde. J'accepte pas ces questions-là, mais on affecte quand même un peu la crédibilité. Ça devrait être absolument interdit. Et pour le reste.
Mais là, je vous renvoie au principe, pardon, je vous arrête un instant, aux fondamentaux du système de justice. Est-ce que si vous. Vous êtes accusé, là, à tort, par exemple, d'une agression. Ne voudrez-vous pas que votre avocat fasse tout ce qu'il y a moyen de faire pour montrer, y compris des choses comme celle-là?
Mais c'est justement le problème, Nick Payne, c'est que c'est certainement la stratégie des avocats dans ce temps-là, mais cette stratégie-là devrait être tout simplement
interdite. Parce que, un, ça fait la preuve de rien. Si on n'a pas le droit de faire la preuve de la mauvaise réputation de l'accusé, ben, on n'a certainement pas plus le droit de faire la preuve de la mauvaise réputation de la victime alléguée, à mon sens.
Sauf lorsque l'accusé... Alors, expliquez-nous donc ce qui est arrivé à Éric Salvaille, qui s'est lui-même, qui a, si je comprends bien, lui-même ouvert la porte à ce qu'on amenuise, on attaque sa réputation, parce qu'il a dit « Moi, je n'agresse pas les gens ». Expliquez-nous comment ça marche, cette affaire-là.
Ben, c'est assez simple, en fait. Habituellement, comme je l'expliquais, ne peut pas faire la preuve de la mauvaise réputation d'un accusé. Parce qu'on s'entend qu'ici, disons qu'on se serait gâté dans le cas de Roson et dans le cas de Salvaille. Cela dit, Salvaille lui-même est allé jouer sur ce terrain-là en disant « Je fais pas ça, moi, agresser les gens, puis je suis pas comme ça, puis si, si, ça, ça. » Et là, l'avocat de la couronne a été excessivement vif d'esprit parce qu'il a demandé au juge « Bon, ben maintenant que l'accusé nous fait lui-même la preuve de ce qu'il appelle sa bonne réputation, vous nous permettrez de démontrer l'inverse, c'est-à-dire qu'il en a une mauvaise, et j'aimerais appeler trois nouveaux témoins, là, je pense qu'ils ont témoigné par écrit dans ce cas-ci, et là, l'avocat de Salvaille, qui Louis Massicotte, a levé 25 pieds dans les airs en disant « Non, on peut pas faire ça ». Et le juge « Ben, je suis désolé parce que votre client est allé sur ce terrain-là, là, on va lutter maintenant à armes égales ». Ils ont fait venir trois autres témoins pour expliquer que, ben, ce qu'on sait, ce qu'on a lu des dizaines de fois, que Salvaille est comme ci et comme ça. Comme
alors, Robert, c'est une sorte de principe d'équité. On ne peut pas aller sur la question de la réputation, sauf si elle est mise de l'avant par...
Voilà. Et ça, je pense que ça a été une erreur. Et moi, je vous dirais que je pensais que Salvaille serait condamné de ce fait-là. Du fait, justement, de cette erreur qui n'est pas nécessairement l'erreur de son avocat. Cela dit, là, ça peut être l'erreur du client lui-même.
Mais ça n'a pas été suffisant. C'est donc dire à quel point le plaignant n'était pas crédible aux yeux du juge, si je comprends
bien. Ben ouais, puis là, vous voyez, ça, c'est un autre exemple. Parce que si le plaignant avait eu un avocat avec lui, personnel, pour l'aider, pour l'accompagner là-dedans, ben probablement que ceci aurait été mieux géré. Parce que ce que le juge avait l'air de dire, puis moi, j'étais pas là, mais j'ai lu les comptes rendus, c'était de dire, ben, il n'est pas très crédible dans le sens où ses versions, sans changer, prennent des allures fantasmagoriques, puis il les exagère, puis il n'est pas capable de nier, il n'est pas capable d'admettre les évidences et tout. Et ça, c'est venu susciter, malheureusement, le doute raisonnable. Et Salvaille a été très, très, très chanceux. Parce que s'il avait eu, de l'autre côté, un témoin peut-être un petit peu plus pondéré, je pense que c'était cuit. Là.
Ou peut-être savait-il qu'il faisait face à un témoin moyennement performant, on va dire ça comme ça. Mais passons à notre sujet du jour, le retour sur 2020, cette année de fou qui se déroule en deux temps. D'abord, nous parlions tranquillement de blocage de chemin de fer par les Wet'suwet'en et autres Premières Nations, et puis toutes sortes de choses étaient sur les ronds du poil, et soudainement, éclipse médiatique totale avec la COVID-19. Mais cependant, il a continué de se passer des choses. Des débats sociaux et politiques qui avaient cours avant ont été même parfois exacerbés par la crise. D'autres se sont perpétués. Alors, je pense évidemment, Frédéric Bérard parlait de ses dénonciations anonymes sur les réseaux sociaux cet été. Qu'est-ce qui a retenu votre attention hors COVID cette année, Frédéric Lapointe?
Ben, il y a des portées disparues, mais je vais commencer par ce qui n'a pas été porté disparu, et ce sont les nations autochtones au Québec. Il y a eu les barrages sur les chemins de fer, bien entendu, mais toute la discussion sur le rapport des services publics et des institutions québécoises aux nations autochtones a pris une tournure dramatique avec le décès médiatisé par la personne elle-même de Joyce Echaquan à Joliette. Et ça a emporté une ministre à Québec. Yann Lafrenière a été nommé depuis, semble faire un bon travail. Et donc, cet événement et d'autres a consacré le maintien dans l'actualité de la question autochtone, alors que toutes sortes d'autres choses sont, si j'ose dire, portées disparues. Hein. Le Canadien de Montréal, les cabanes à sucre, le milieu culturel au complet, la discipline budgétaire est portée disparue là. En 2020. On pourra planter une croix et inscrire une date. Et peut-être même les discussions sérieuses ou centrales sur les changements climatiques, ça a été passablement éclipsé en 2020 par la pandémie. On parle beaucoup moins de Greta Thunberg là, en ce moment.
Oui, j'ai entendu parler du réchauffement climatique dans les pays d'en haut hier. On parlait du chauffage atmosphérique. Frédéric Bérard, vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention, outre ce qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est-à-dire le coronavirus?
Oui, en fait, je suis content que Frédéric parle des relations avec les Autochtones. La question du racisme systémique, je pense que c'est un des sujets qui devrait être réglé. La mascarade caquiste, là, avec cette espèce de comité bidon, me semble absolument...
Bon, alors le groupe d'action sur le racisme, où il y avait Lionel Carman, la ministre Giraud également, et d'autres députés, qui a accouché lui aussi d'un certain nombre de recommandations, mais très concrètes, très précises, mais c'est vrai qu'on avait... Alors vous avez l'impression que c'est du mangez-mou?
Non seulement c'est du mangez-mou, mais ce qui est rigolo, c'est que ces recommandations-là font... Il y a une corrélation étroite avec ce qu'on appelle justement le racisme systémique. Et qu'ils craignent de reconnaître le concept. Je sais pas, probablement pour en payer un prix électoral X ou Y, parce que les Québécois vont leur sauter en pleine face. Mais essentiellement, si tu me dis que tes recommandations sont des trucs de CV, des trucs de logement et tout, mais ça, si c'est pas du racisme systémique, je me demande c'est quoi. Donc, c'est cette espèce d'hypocrisie-là qui me tue. L'affaire de l'hôpital de Joliette que Frédéric a mentionné en est un autre exemple. Ce n'est pas un cas d'espèce, on le sait bien. Donc, je pense qu'il faudra vraiment prendre le taureau par les cornes. Arrêtez de déconner et passez à autre chose. Il n'y a personne qui dit que les Québécois sont racistes. Revenez-en. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a du racisme systémique, c'est tout. Il y a un système qui produit un racisme X à travers des biais inconscients. C'est pas faire le procès des Québécois, c'est reconnaître que toute société occidentale a en son sein et essayer de le régler.
Alors, vous avez vraiment ouvert le débat. Il faut qu'on continue là-dessus, Frédéric Lapointe. De toute façon, c'est un débat qui se fait pas ou tout croche, où on s'entend pas sur les termes jusqu'ici dans ce débat-là. Le racisme systémique. Frédéric Lapointe, Bérard vient de nous dire que ce n'est pas une accusation de racisme à l'endroit des Québécois, mais il dit dans la même phrase, c'est le produit d'un certain nombre de biais inconscients. Mais alors, est-ce que ce serait pas du racisme, ça, des biais inconscients. Est-ce que c'est pas une... Êtes-vous d'accord avec le racisme systémique ou pensez-vous que c'est une expression sur laquelle on se comprend pas, là, qui est peut-être faite pour provoquer plus que pour régler des choses?
Alors, c'est certainement vu comme une cage à homards. Le gouvernement et plusieurs citoyens ont le sentiment, ça fait un concept qu'ils n'ont pas accouché, qui ne leur appartient pas, qu'ils vont aller là où ils ne veulent pas aller. Et parmi les choses sur lesquelles il me semble qu'il y a des désaccords importants, c'est dans les exagérations. Par exemple, lorsqu'on dit qu'à la ville de Montréal, la ville serait raciste parce qu'il n'y a pas suffisamment de minorités visibles dans la fonction publique, c'est une erreur. C'est parce qu'on ne tient pas compte à la fois de la géographie et à la fois de la durée. Mais il y a cette habitude de vouloir voir...
Parce que vous dites, vous, on connaît votre thèse, là.
Dans toute différence statistique qu'on observe. Alors qu'en fait, ce qui est surtout manifesté, c'est une impatience. La société n'évolue pas assez rapidement. Et donc, on en arrive assez trop rapidement, à mon avis, à identifier le racisme comme étant la cause d'un fait qui s'explique là, par la géographie et la démographie. L'autre élément, c'est que bientôt, et ce débat-là... Il
non, mais attendez, juste une seconde, là.
Chez les militants.
Juste un instant, Frédéric Lapointe.
Bien,
Oui, c'est parce que, juste pour éclairer nos auditeurs, vous, ce que vous dites, c'est que en temps réel, si vous voulez, au fond, la sociologie des employés de la ville de Montréal ne peut pas refléter celle qui a cours dans la rue parce que ces gens-là sont déjà à l'emploi depuis un certain nombre d'années. Il faudra quelques années pour que la couleur des employés de la ville de Montréal reflète celle de l'homme de la rue.
Chose pour les acteurs à Radio-Canada, c'est la même chose pour les postes de directeurs généraux dans les villes. Si les directeurs généraux embauchés à la ville de Montréal sont embauchés à Québec parce que c'est la deuxième ville du Québec, ben non, ils ne sont pas embauchés à Montréal-Nord ou dans le Nouveau-Rosemont. Donc, il y a des choses comme ça où pointer du doigt le racisme systémique pour expliquer des choses qui s'expliquent autrement, il y a de l'abus, ça arrive. Et donc, il y a des gens qui résistent à ça, notamment parce que, et c'est normal, dans une discussion un peu juvénile sur ces faits-là, parfois, il y a des dérives et il y a des réponses et il y a des réactions. Mais l'élément probablement le plus important, c'est que dans plusieurs cercles, ces questions-là ou ces thèmes-là sert de porte-lance pour contester y compris la légitimité de la nation québécoise et y compris la légitimité de la place centrale du français dans la vie québécoise.
Ben, non,
ça, ben oui, ben oui. Alors, attendez un peu. Laissez finir Frédéric Lapointe. Je vais vous passer la rondelle, Frédéric Béra.
Et donc, ces discussions-là ont cours. Elles ne sont pas portées nécessairement par des organisations comme des partis politiques, mais elles sont comprises ainsi dans la rue, dans les médias sociaux, elles sont portées ainsi dans des groupes militants. Et donc, ouais, ça donne au concept de racisme systémique un peu mauvaise presse.
Frédéric Bérard, dites-moi pas que vous n'avez pas remarqué, parce que vous sursautez, cette sorte de convergence de discours et d'intérêts entre les militants antiracistes, d'une part, au sens large, et une certaine mouvance qui a la propension de dire, on la connaît depuis longtemps, là, que le Québec français, ce sont des gens plus racistes que les Canadiens en général.
On finit l'année en beauté, les amis. Là, arrêtez-moi ça.
Alors, vous n'avez pas vu ça, vous?
Mais c'est quoi ces bêtises-là? La légitimité de la nation québécoise, qu'est-ce que c'est, ça, que la légitimité de la nation québécoise, premièrement, le fait français, tout rattaché ça?
Non, mais vous avez ce professeur-là de l'Université d'Ottawa qui ne cesse de dire les Québécois, ce sont des racistes nationalistes, les francophones sont plus racistes que les autres, et c'est aussi quelqu'un qui est très vocal sur le racisme systémique.
Mais oui, mais c'est un cas de racisme à la con, là, ce qui s'est passé à Ottawa envers les francophones. Je n'ai ni pas qu'il y en a, évidemment qu'il y en a.
Bon, mais vous venez de répondre à ma question positivement.
Mais parce que là, vous instituez ça comme si, alors, on s'auto-flagelle puis ils nous détestent. Puis là, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a du racisme systémique ici. Tu sais, quand le Québec a adopté sa politique contre la discrimination raciale en 86, puis quand il a adopté sa politique sur le multiculturalisme, ben oui, imaginez donc, en 78-79, ben, je pense qu'on pouvait concevoir la légitimité de la nation québécoise en incluant quelconque autre race, appelons ça comme ça, et en ayant comme tronc commun le fait français. Ça, c'est assez clair. Donc moi, je me sens pas du tout, mais pas du tout comme Québécois francophone, attaqué du fait qu'un Arabe a 20 fois moins de chances de se faire engager si son nom arabe apparaît sur un CV. Qu'à l'inverse, il s'appelle justement, je sais pas moi, tiens, Frédéric Lapointe. Moi, je trouve ça anormal. Et si on corrigeait cette situation-là, je vois pas en quoi ça affecterait ma légitimité comme Québécois ou ça affecterait la légitimité de la nation québécoise. Je n'y vois rien de ça. Et pour le reste, si vous voulez, un autre exemple qui est peut-être un peu moins anecdotique, et là, je pense qu'on sort du systémique, et c'est dommage que les médias ne parlent pas de cette thèse-là, parce qu'il y a un rapport qui vient de sortir du sociologue Paul Heath, qui dit qu'il y a 32% de Québécois qui refusent, pas qui en veulent moins, qui refusent l'immigration musulmane. Refuser l'immigration musulmane, presque un Québécois sur trois. Ça, si c'est pas un cas de racisme, d'islamophobie pure, je me demande c'est quoi. Je ne dis pas que les Québécois sont islamophobes, je dis qu'il y a d'islamophobie au Québec. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est démontré par des chiffres, par la science? Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut régler ça?
Oui, mais Frédéric Bérard...
Sans s'auto-flageller puis s'attaquer puis dire « Ah, oh, regardons ça comme ils nous haïssent ». Ces gens-là, et là, vous jouez la même game de l'autre part. Vous vous auto-victimisez comme quoi c'est une attaque frontale à votre raison d'être. Et ça, moi, j'embarque pas là-dedans.
Parlez-moi un instant sur la crainte, la méfiance, le refus de certaines couches, certains types d'immigration. C'est quand même pas étonnant dans les années 2010-2020 que plusieurs populations occidentales aient peur de certains types d'immigration. Il n'y a pas seulement les Québécois. Vous ne pensez pas que ça... pensez pas que c'est né de rien, de nulle part, que les gens sont racistes comme par enchantement?
Mais si il y a une tendance, Nick, en 2020, c'est pas nécessairement de l'exacerbation de la peur de l'immigrant musulman. Si on avait fait l'émission, je ne sais pas moi, en décembre 2001, ce serait probablement central. Mais je dirais que cette année, la peur de l'immigration, c'est peut-être une nouveauté, et pas centrale, parce que en 2018-2019, on a des niveaux d'immigration qui augmentaient, on a des niveaux de départ du Québec qui diminuent, et donc une augmentation de la population rapide. Mais là, je pense qu'en 2020, avec le frein qui a été posé sur la circulation de la population, en fait, on est en pause et je sens pas personnellement de très grandes tensions sur ce sujet-là en 2020, là, pour peu qu'on se questionne là, sur le bilan de l'année.
Mais là, terminons sur le système, là, le systémique. On refera le débat sur la connivence entre l'antiracisme et l'anti-québécisme primaire parfois du Canada. Bérard n'est pas d'accord avec nous là-dessus. Mais le système, là, qu'est-ce que... Frédéric Bérard, là, vous en êtes un porteur de cette expression-là, vous en êtes un défenseur. Qu'est-ce que... Je comprends dans le cas des peuples autochtones, très certainement, à mon avis, il s'agit là d'un racisme, d'un système. Alors, il y a une loi, la loi fédérale sur les Indiens, qui instaure, là, pour le coup, un système discriminatoire, raciste. Les motifs de cette loi-là n'étaient pas très, très glorieux à l'origine, de toute façon. Mais sinon... Oui, le système, là. Oui, comment... Vous trouvez pas qu'on confond le Québec et l'Alabama ou l'Arkansas quand on non, dit des choses comme ça?
Ça, c'est trop facile. Ça, c'est l'argument de Bocoté de dire que c'est un problème américain.
Non, mais c'est pas parce que Bocoté l'a dit.
Mais évidemment qu'on est moins raciste qu'en Alabama. Ben moi, je suis moins gros que Youpi, ça veut pas dire que je suis pas gros un peu, là, comprenez-vous? une fois qu'on a dit ça, j'aimerais juste préciser, avant d'aller plus loin, là, je ne fais pas le procès des Québécois. Le racisme existe partout. La preuve, Doug Ford a reconnu le racisme systémique en Ontario. George Bush...
Oui, mais vous comprenez que ça paraît bien, c'est bien, ça nous marque du côté des fréquentables. Bon, le racisme systémique, parfait, tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que pourquoi les gens n'auraient pas le droit de se dire, attends un peu, là, nous, on serait les architectes d'un système qui exclut... alors, on a droit à des explications là-dessus.
Ben oui, en voici. Est-ce que c'est normal... il y ait un taux de profilage basé sur la race qui soit stratosphérique tel que reconnu par la SPVM. Est-ce que c'est normal que c'est 6, 10, 15, 20 fois plus difficile de trouver un logement si on a, par exemple, un nom à consonance arabe ou si on a une peau un peu plus foncée que la moyenne des ours? Est-ce que c'est normal que ce soit 5, 10, 15, 20 fois plus difficile de se faire appeler en entrevue parce qu'on a un nom de ce type-là sur notre CV?
Mais vous m'expliquez pas ce qu'est, où est le système. Alors, ce serait des lois qui font en sorte... ou c'est un système, quand vous appelez ça système, vous parlez d'une culture, vous parlez de...
Oui, puis je veux dire, c'est un réflexe normal. Je ne crois pas que les Québécois, ça c'est démontré par la science, de toute façon, les Québécois ne sont pas plus racistes d'un point de vue systémique que quiconque. C'est pas vrai, ça. J'embarque pas dans cette affaire-là. Les problèmes existent partout ailleurs.
Ah, mais là, vous savez que vous marchez côte à côte avec des gens qui, au contraire, disent qu'il y a au Québec un problème accru sur ce front-là par rapport au reste du Canada.
Par association, si vous voulez jouer à ça, là, moi, je peux vous sortir des noms.
Bon, Frédéric Lapointe, on va laisser Bérard macérer un peu.
J'ai pas lu le rapport qui a été déposé, mais si j'en crois ce que Maître Bérard en dit, on s'adresse au problème spécifiquement du logement et on s'adresse spécifiquement au problème des curriculum vitae. C'est qui tend à démontrer...
Ah, mais on prône la création d'un poste de ministre de la lutte au racisme. C'est pas rien.
C'est tant à démontrer que le gouvernement peut agir sans avoir à obtempérer à un acte semble important pour bien des gens, mais qui n'a pas de conséquences concrètes, puisque les conséquences concrètes découlent de législation, découlent de mesures. Et que je sache, d'ailleurs, comme Frédéric l'a bien mentionné, le Québec ne manque pas de mesures, n'en manquait pas dans le passé avant qu'on parle de racisme systémique, et n'en manque pas davantage aujourd'hui, alors que le gouvernement se refuse à le reconnaître.
Alors, c'est tout le temps qu'on a, messieurs. Il faudra refaire ce débat l'année prochaine. On fera une émission complète là-dessus, 2 heures. Et je pense qu'on n'en aura pas assez.
On pourrait faire un congrès puis faire animer la pointe, peut-être.
Ouais, ben là, c'est parce que tu veux me sortir du débat.
Ben oui, moi, je fais quoi?
Ça va être plus facile.
Alors, chers amis, Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur au journal Métro, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique, à une prochaine. Joyeux Noël et bonne année à vous deux.
Joyeuses fêtes et un bon Noël chrétien.
Dans un instant, chers auditeurs, mais pourquoi pas, dans un instant, nous allons discuter avec Joseph-Yvon Thériault, regard sociologique. Tâchons de prendre un peu de recul sur l'année 2020. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, il est sociologue, professeur, auteur de nombreux ouvrages, dont notamment là, 7 leçons sur le cosmopolitisme, Agir politique et imaginaire démocratique. Ça, c'était chez Québec Amérique en 2019, mais il y a probablement autre chose depuis. Là, L'autre moitié de la modernité. C'est un livre de conversation avec Joseph-Yvon Thériault, publié aux presses de l'Université Laval en 2020. Bonjour, Joseph-Yvon Thériault. Alors, on a discuté cette année de divers sujets qui sont, on a discuté ensemble, vous et moi, qui sont toujours, je pense, dans l'air quand on veut faire un retour sur cette année-là, non? Qu'est-ce qui a retenu votre attention, vous?
Oh, écoutez, il y a beaucoup de choses, mais évidemment, je pense qu'on peut pas passer à côté, là. Hein, c'est la question de la pandémie, mais il y a la question de Donald Trump et du populisme qu'on a discuté déjà, mm-hmm. et qui est aussi marqué l'année. Il y a toute la question dont vous venez de discuter là sur les enjeux là, identitaires, Black Lives Matter, la mort de George Floyd, il y a la question autochtone au Québec, etc., les questions de la liberté académique et tout ça. Mais je sais pas si j'essayais de... Si j'essayais de mettre des mots autour de ça pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qui est une constellation, je dirais qu'il y a une polarisation dans cette année entre la science et je dirais la passion. D'un côté.
La stratégie de l'émotion, hein?
Oui, c'est ça. D'un côté, la passion, l'émotion, la politique aussi, là, hein? Le retour de la politique dure, là, dans le sens d'une la politique comme affirmation de quelqu'un contre la technocratie, contre la science. D'ailleurs, le cosmopolitisme, c'était un peu ça aussi, hein? C'était mon idée là derrière ça, c'est-à-dire que le cosmopolitisme, c'est un projet technocrate. Prenons juste un exemple, le Brexit cette année, qui est là. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années passées, tout le monde se disait l'Union européenne, c'est le projet de la technocratie, mais c'est le projet émancipateur de nos sociétés. On s'en va vers le dépassement de l'État-nation et tous ces enjeux-là. Et voilà que c'est mis de côté par une passion politique. Les Anglais veulent être bien chez eux.
En effet, qui répond à d'autres ressorts.
Oui, d'autres projets. Ressorts que ça. Au risque de ce projet qui apparaît scientifique, qui apparaît vrai, qui apparaît technocratique, qui apparaît dans l'air du temps, au nom d'une pulsion, d'un timos, d'une passion. Et ce qui est intéressant dans le cas du Brexit, c'est que ça ne vient pas d'une société d'Europe de l'Est, qu'on dirait que la démocratie ne s'est jamais implantée là. Ça vient du cœur même du lieu où la démocratie s'est organisée.
Le fameux parlementarisme britannique. Mais vous avez commencé en parlant de ce choc entre le politique et le scientifique. Donc, iriez-vous jusqu'à dire par votre parallèle que les raisons d'un maintien dans l'Europe étaient, d'une certaine façon, démontrées scientifiquement, mais que c'est l'émotion qui mène les Britanniques dans cette volonté d'en sortir?
Oui, je dirais ça. Je dirais que si on était sur papier, là, on dirait non, il faut rester dans l'Europe. Là. Il y a toutes sortes d'avantages économiques, d'avantages de voyages, etc. Mais que la politique, c'est pas ça non plus. Hein. C'est ce que je disais. La politique, c'est de dire, ben, moi, je voudrais faire ma trace dans le monde. Et que tout d'un coup, on s'aperçoit que si on suit les paramètres du scientifisme, les paramètres de la technocratie, notre trace, elle disparaît. On n'est plus là. Hein. C'est des machines, ce sont des grandes organisations qui vont nous définir, puis qui vont nous réarticuler. Et je dis...
Bien sûr, et nous surplomber, nous dominer, nous effacer d'une certaine façon.
Ouais. Parce que je le dis, dans la crise de la pandémie, ça m'apparaît frappant. Hein. Moi, je vois que... c'est la victoire de la science là jusqu'à maintenant en Occident. C'est-à-dire dans le sens que on a mis sous tutelle la politique et c'est les services de santé publique partout dans le monde qui ont pris en charge et qui voudraient encore aller plus loin en disant c'est nous qui doivent gérer à partir des critères de l'épidémiologie, à partir des critères scientifiques, etc. C'est nous qui devons gérer la nouvelle société.
Alors, est-ce qu'il y a une dérive, là? Est-ce qu'il y a une forme de médicalisme triomphant? Il y en a qui se plaignent, qui critiquent ça.
On voit de l'autre côté qu'il y a des gens qui disent, ben non, la société doit survivre, là. On doit vivre, il faut laisser plus de liberté au monde, il faut jouer sur le bon sens, etc. Ça va jusqu'à des gens qui disent, ben non, la science est en train de comploter, c'est pas si mal que ça. Donc, mais on voit bien que c'est le même débat, hein, un débat en disant, il y a la vie d'un côté, hein, la vie sociale, la société qui veut surgir, puis de l'autre côté, il y a des scientifiques qui nous disent, ben il faut mettre fin à nos relations sociale si on veut à long terme survivre. Donc actuellement, ben, moi je suis plutôt du côté de la science là, dans le débat sur la pandémie en disant mais écoutez, surtout que, je veux dire, pas qu'ils ont complètement raison, mais notre système hospitalier est fragile et on voit bien que quand on entre une personne de plus, on fragilise encore plus la chose, puis on se dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut qu'ils ont raison de nous dire, mettons sur pause la société à un moment donné.
Mais... Oui, alors là, ça craque. En fait, là, on passe du scientifique au technocrate, au technocratique, à la mathématique dure. Là. Il n'y a juste pas assez de place pour tout le monde dans ce système-là.
On est sûr, mais c'est sûr que des fois, quand on écoute les épidémiologistes, c'est effrayant, là, parce qu'ils nous disent toujours, ben, ah non, il faut aller plus loin, il faut. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais non, on est face à de l'humain, on est face à de la vie. Ça doit bouger, cette société-là. On peut dire, restreignez vos déplacements, faites ceci, suivez des consignes, mais on peut pas aller jusqu'à fermer.
Alors donc, on a fait une forme d'arbitrage tout de même, c'est-à-dire que le vous dites que c'est la victoire du scientifique, mais pas complètement quand même, hein, parce que...
Moi, j'étais assez surpris parce que hein, dans à l'ère du populisme où il y a des mouvements populistes qui sont contre la vérité scientifique ou contre la technocratie, avec des raisons qui ne sont pas aussi farfelues qu'on le dit souvent. Donc, à cette ère-là, on aurait cru que la pandémie allait avoir plus de contestations. Mais moi, je suis assez surpris qu'en Occident, les consignes sont assez suivies.
Ils sont tout de même assez suivis. Alors, il faut qu'on passe à un autre... Enfin, je pense qu'on va peut-être rester un peu dans le sujet, mais Joseph-Yvon Thériault, vous êtes vous-même à l'Université d'Ottawa. Cette histoire-là avec la prof lieutenant Duval fait tache d'huile. Vous avez été très critique vous-même envers le recteur Frémont, si je ne m'abuse. Et je voyais ces jours-ci encore ces tweets de ce... professeur dont j'oublie le nom de famille malheureusement, là, qui fait le lien, dont je parlais à Frédéric Bérard tout à l'heure, entre les francophones et le racisme. Et derrière tout ça, cette pauvre prof qui, si je ne m'abuse, est la seule vraie victime dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe, Joseph-Yvon Thériault, dans l'université de façon plus large? Est-ce que vous êtes d'accord avec les constats d'un Boccoté ou de plusieurs autres là, qui disent qu'il y a vraiment une espèce d'avalanche de censure et de bien-pensance?
Oui, en partie, mais je dirais moi surtout là il y a une avalanche de il y a une polarisation puis il y a une avalanche de mouvements étudiants qui veulent imposer la censure à l'université. Ça c'est clair. Ma réponse, ce serait de dire c'est à l'institution universitaire, normalement, à mettre des balises et à dire nous, on est une institution qui doit médiatiser les oppositions dans la société, qui doit assurer la liberté de parole dans l'université, etc. Et ma position ici, c'est de dire que nos universités, pas uniquement Ottawa, hein, nos universités, ils ont abdiqué. Moi, je suis aussi à l'UQAM. Quand on voit que les étudiants viennent nous dire des choses, on ne les prend pas pour des sujets politiques. Adultes, souvent. On dit oui. Alors, on est d'accord, on est sensible à votre argument. Et on est beaucoup dans une idéologie de repentance et non pas dans une idéologie politique.
C'est encore l'émotion ici, non? Ben oui, en même temps.
C'est l'émotion et la partie la plus froide, la partie institutionnelle, disons, elle est devenue un peu passionnée aussi. Hein, quand le recteur de l'Université d'Ottawa abonde dans le jour même du côté d'une étudiante qui proteste dans un cours en disant toute personne personne qui est issue d'un groupe minoritaire a le droit de se sentir à l'aise, mal à l'aise, et c'est elle qui dicte la loi. On dit, mais là, monsieur Frémont, vous avez abdiqué votre responsabilité en tant que recteur. Vous êtes là pour arbitrer, vous êtes là pour étudier, vous êtes là pour médiatiser, vous êtes là pour assurer la décence. Il y a toujours un contrôle de la parole à l'université. C'est pas vrai que c'est complètement libre. Hein, les professeurs, ils doivent parler de façon raisonnable, ils doivent pas insulter les étudiants, etc. Mais il y a une limite. À un moment donné, on dit, mais si un étudiant se sent mal à l'aise...
Mais là, le recteur Frémont persiste. Hein, c'est ça qui rend la chose impressionnante. Oui. Il persiste et signe. Et on a pu lire le professeur Gingras de l'UQAM, je crois, qui, comme plusieurs, disait, bon, ben il y a les géniards là, qui veulent imposer la censure, mais il y a aussi les gens en poste de responsabilité qui flanchent et qui obtempèrent. Et il mettait le blâme sur ces gens-là, mais on a l'impression que le mouvement est plus profond.
Moi, je suis assez d'accord avec lui. Il faut pas. Moi, je suis assez vieux. Dans les années 70, là, les marxistes-léninistes, dont j'étais assez près, là, ils faisaient la même chose. Ils faisaient de l'entrisme dans les salles de classe. Ils disaient, vous, sale bourgeois, vous n'avez pas le droit d'enseigner ça, changez vos cours, etc. Mais à l'époque, l'institution universitaire ne les applaudissait pas.
Ben c'est ça. Donc, ce ne sont pas quelques 3-4 pelés et 2 tondus. Non, il n'y a pas une erreur de perspective. Là, c'est un mouvement, c'est une lame de fond plus forte.
Il y a un mouvement. Il y a un mouvement certain, mais c'est pas un mouvement non plus. Il y a des étudiants qui sont pas d'accord avec ça. Il y a des profs qui sont pas d'accord avec ça. Mais l'idée que des étudiants peuvent énoncer quelque chose qu'on n'aime pas. Il me semble que ça va de soi, c'est que où le problème est, c'est qu'on se dise, mais comme vous l'avez énoncé, maintenant c'est ça qui fait loi. Là on se dit, mais il y a un problème là. C'est pas dans un débat démocratique, les deux parties ont le droit de la parole. Et si tout d'un coup on dit qu'un a une suprématie de droit sur l'autre parce qu'il est une victime, puis qu'il parle au nom d'une victime, il parle au nom d'une victime, même si on ne sait pas trop au nom de qui il parle, parce qu'il n'a pas, je veux dire, dans la question des Noirs et du mot nègre, on n'a pas demandé aux Noirs de notre société si c'était vrai là, qu'ils n'aimaient pas ça, le mot nègre, dans un contexte pédagogique. Là. C'est certain qu'ils ne veulent pas se faire insulter dans la rue, là, mais qu'un professeur utilise ce mot pour expliquer un mouvement social, il me semble que là, il y a beaucoup de... Dans les gens que je connais, il y a beaucoup de Noirs qui voient pas le problème.
Oui, qui se sont inscrits en faux. Oui, absolument. Il nous reste peu de temps, Joseph-Yvon Thériault. Est-ce que 2020 nous annonce la poursuite, l'accroissement de ce phénomène de bien-pensance ou de censure dans les universités et donc dans la société? Ou est-ce que vous voyez la fin de un retour de balancier?
Non, moi je pense que... Je dis souvent, les gens, ils, quand ils analysent la pandémie ou qu'ils analysent le populisme sur cette question-là, ils disent, il y a un avant et un après. On a une espèce de surévaluation du changement. Et moi, je pense pas que la pandémie va nous amener, elle va amener du changement, mais elle va pas changer notre société. Il y aura pas un avant et un après. Habituellement, les crises, que ce soit les guerres, que ce soit les famines, que ce soit les grands bouleversements dans nos sociétés, il transforme la société, mais à partir de tendances qui étaient déjà là. Moi, je pense que cette polarisation que je disais entre cette de vérité scientifique et de passion d'un côté, ça va s'accentuer. On a juste besoin de regarder aux États-Unis actuellement le résultat de l'élection. Quand on dit que l'Amérique est divisée, il est divisé sur cette base-là. Et ce qui manque, ce sont des médiations entre la politique et la passion. Mais actuellement, les médiations, elles sont...
Qui viendraient des institutions, non?
Elles viendraient des institutions, oui, particulièrement. Moi, je pense qu'on est dans une époque où, si on aura quelque chose de responsable à faire, c'est de dire qu'il faut revaloriser nos institutions de la liberté, nos institutions de la médiation, nos institutions publiques, etc. Mais elles viennent aussi de quelque chose de plus profond que ça, c'est plus difficile à changer. On est d'une culture individualiste qui ne croit plus aux institutions. Quand on va dans des grandes manifestations de jeunes aujourd'hui. Hein, je me souviens de ce slogan qui résume tout, qui disait « fuck tout ».
Ouais.
Donc, ça veut dire les institutions financières, les institutions juridiques, les institutions. On a une croyance.
Hein, c'est pas très scientifique pour le coup. Oui, en effet.
On le voit cette semaine là. Les causes de justice là, par rapport aux agressions sexuelles, les médias ne croient plus à la justice.
Oui, en effet, il y a une institution malmenée, là. Oui. Joseph-Yvon Thériault, c'est tout le temps que nous avons. Joseph-Yvon Thériault, sociologue, bien sûr, auteur. C'est votre anniversaire? Est-ce que c'est Facebook qui m'a dit en erreur?
C'est bon. Mon anniversaire de naissance aujourd'hui. Oui.
Alors, on vous en souhaite un bon, et vous nous annoncez donc la suite de ces phénomènes, alors.
Oui, avec les passions et la science vont s'opposer encore fortement.
Alors, encore beaucoup de bonnes émissions de radio à faire là-dessus. Bon, ben, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
À une prochaine. Dans un instant, chers auditeurs, Nicolas Vidal en direct de Paris.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, c'est le patron de Putsch Media. Il est à Paris. C'est un fin, bien sûr, et passionné observateur de la vie politique de son pays, la France. Bonjour, Nicolas Vidal.
Bonjour, Nick. Bonjour.
Alors, votre président est atteint de la COVID.
Ça y est, Emmanuel Macron a attrapé la COVID-19 et les médias mainstream depuis 3 jours nous parlent d'Emmanuel Macron qui nous a fait une vidéo formidable. On l'a vu émacier Emmanuel Macron, il nous a expliqué effectivement qu'il avait attrapé la COVID et petite cerise sur le gâteau, il l'aurait attrapé au Conseil européen. Emmanuel Macron, il est généreux, il a fait profiter tout le monde, le Premier ministre portugais, le Premier ministre espagnol, son Premier ministre, son président international, tout le monde a profité de la COVID d'Emmanuel Macron, donc tous ces gens sont actuellement confiné jusqu'au matin de Noël, cher Nick. Voilà Emmanuel Macron, il est généreux dans l'effort.
Ah bon, mais ma foi, c'est un complot, mais plus, avec un peu plus d'empathie. Il va bien, votre président? Il est mal en point?
Ben non, apparemment, il va bien. Et on lui souhaite, d'ailleurs, on est républicain, on souhaite un très prompt rétablissement à Emmanuel Macron. L'Élysée communique plusieurs fois par jour pour nous dire qu'il a simplement des symptômes basiques, et tant mieux pour lui, on l'espère le retrouver ardemment au cheval de bataille de la crise sanitaire et la crise économique.
Est-ce
voilà
que...
pour le bulletin de santé d'Emmanuel Macron.
On n'a toujours pas vécu ça au Québec. Est-ce que ce type d'événement peut amener un certain nombre de Français à adhérer davantage aux consignes de confinement, de distanciation et le reste? Est-ce que ça marque l'imaginaire?
Alors Emmanuel Macron, il joue là-dessus, bien entendu, parce qu'il dit qu'il a effectivement eu pas de chance et que peut-être qu'il n'a pas respecté toutes les distanciations sociales malgré lui. Donc oui, peut-être que ça peut remettre un petit coup de boost, vous savez, ce mot anglais, dans les consciences françaises à quelques jours, à quelques heures, dizaines d'heures de Noël ici comme pour vous. On verra ça, mais pour l'instant, Emmanuel Macron, voilà, on a des informations assez précises sur sa santé.
Alors,
on ne s'inquiète pas.
Alors sinon, Nicolas Vidal, comment résumez-vous 2020? Peut-être hors pandémie ou alors sur ces sujets de fond qui peuvent avoir été exacerbés par la situation sanitaire.
Vous avez exactement tout à fait raison, Nick. La COVID-19, c'est absolument central parce que ça fait appel à tout ce qui se passe dans ce monde, surtout en Europe. Je vais parler du point de vue européen. Ça a fait émerger les folies d'une doxa néolibérale complètement folle. C'est-à-dire, finalement, ce virus s'est propagé dans le monde entier depuis la Chine et ça a sapé, littéralement sapé, ce paradigme néolibéral dans ses fondements. Le sans-frontiérisme, la concurrence, qui a donné quoi, finalement, sans frontières, avec un virus qui s'est propagé partout, on est arrivé à une situation complètement ubuesque, de la guerre de tous tous contre tous, parce que les États, finalement, se sont recroquevillés sur eux-mêmes pour essayer de faire face. L'Union européenne, notamment, a été incapable, une impéritie totale, à essayer d'endiguer ce virus. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois, on a vu Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, nous faire un petit clip vidéo en la montrant se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Mais finalement, ça a montré que ce qui protège réellement, c'est l'État, du moins la nation. Rappelez-vous, ces néolibéraux qui nous ont promis le sans-frontiérisme, la mondialisation heureuse, aujourd'hui, depuis un an, nous mettent des frontières buccales avec le masque, découvrent vos attestations, découvrent feu, finalement, nous remettent au sein même de nos frontières personnelles individuelles. Donc c'est, à mon sens, le naufrage de la mondialisation, de cet état d'esprit de la mondialisation qui a voulu de nous faire le progressisme hédoniste de l'émancipation individuelle qui aujourd'hui est en train d'être battu en brèche par la Covid-19. C'est pour ça qu'il y a vraiment un fondement absolu et l'idée très importante qu'il faut tenir de ça, et je crois que c'est un peu le cas aussi au Québec, chez nous et dans d'autres pays européens, c'est ce qui est effrayant, c'est l'illégitimité aujourd'hui de la parole publique, de la parole politique, de gens, les Français en majorité, n'ont plus confiance. Alors vraiment, c'était déjà le cas avant la Covid, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a une profonde illégitimité dans la prise de parole et dans les décisions qui sont prises. Et c'est vrai pour les États, notamment la France, mais c'est encore plus vrai pour l'Union européenne, qui n'arrive notamment pas à s'entendre sur le plan de relance européen, avec des blocages et des vétos de la Hongrie, de la Pologne.
Mais justement, Nicolas Vidal, oui. Dites-moi donc, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, monsieur, oui. Le président Macron, en parlant de ce qu'il comptait faire dans les prochains jours, mettait la question du Brexit parmi ses priorités. Alors justement, c'est un échec, ça, de l'Europe. Et comment c'est vécu à ce moment-ci? Où est-ce qu'on en est du point de vue français dans le rapport au Brexit?
Ah ben le rapport au Brexit, de toute façon, on va falloir faire aussi avec la souveraineté du peuple britannique qui veut sortir de l'Union européenne, c'est des premiers chefs. Effectivement, il y a des négociations qui sont très dures parce qu'on risque d'aller vers un hard Brexit. Et bien entendu, on affiche ça parce que vous savez qu'il y a une contribution des Britanniques au budget européen. Donc ça va être reporté ici, mais les médias français, vous le savez, mainstream, nous disent que c'est un échec absolu et qu'il va falloir s'en sortir et que les hommes politiques aussi. Notre classe politique aujourd'hui essaye de sortir la tête haute du Brexit. Et on nous fait, d'ailleurs, c'est très intéressant, petit exemple très très rapide, on nous fait depuis une semaine des reportages chez ces pêcheurs français qui vont faire leur beurre marin, j'ai envie de dire, dans les eaux anglaises. Et les Anglais, eux, ont sorti la marine britannique pour éviter, suite au Brexit, que les pêcheurs français viennent pêcher dans leurs eaux. Donc on nous montre en quoi le Brexit est une honte absolue. Mais la réalité, c'est que c'est la souveraineté du peuple britannique qui s'est imposée. Il faut la respecter. Et l'Union européenne, aujourd'hui, je crois qu'elle est. Elle a peu de chances aujourd'hui de revenir sur une légitimité démocratique puisqu'elle n'est pas arrivée à gérer cette crise sanitaire. Et je ne parlerai pas des vaccins parce que c'est un scandale absolu aujourd'hui, avec beaucoup d'opacité, beaucoup de troubles, parce qu'on n'arrivera jamais à voir, on n'arrive pas à voir aujourd'hui. Les députés européens, dernière chose, les députés européens n'arrivent pas, n'ont pas conscience aujourd'hui des données, des contrats signés avec les labos pharmaceutiques. Donc vous voyez toujours l'opacité démocratique de cette Union européenne
Nicolas
qui n'a pas grandi de cette situation.
Je vous laisse aller prendre peut-être un petit verre de rouge en vous disant joyeux Noël, bonne année à vous à
Merci
Paris.
Merci beaucoup, vous aussi.
Chers auditeurs, Nick Payne qui vous souhaite la même chose. À l'année prochaine!